Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver ce matin dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. Quels sont les effets de l'exploitation des hydrocarbures sur le vécu quotidien de communautés locales de Mandabia? On en parle dans ce numéro avec notre invité Emmanuel Moussouyou, coordonnateur de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique Corapensig. Il est avec nous dans ses studios. Emmanuel Moussouyou, bonjour.
Bonjour monsieur Marcel.
Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans la deuxième partie de ce magazine après le flash d'information de 11h de Kinshasa. On va parler des sanctions prévues par la loi congolaise en cas de spoliation des patrimoines immobiliers de l'État. Maître Rifa Luko Moussouba, avocat barreau de Kinshasa Matete, sera notre invité. Il y aura également Elio Mavoumou, chargé de l'administration de l'ONG SOS Kinshasa. Voilà le menu pour le magazine Okapi Service de ce jour. Alain Goy est à la mise en œuvre de Tati Mapoko, réalise et coordonne ce magazine. À la présentation, c'est Marcel Gomobala sous la supervision de Jean-Marc Matuaki. À toutes et à tous, excellente condition d'écoute de ce numéro de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service.
L'actualité en profondeur sur Radio Okapi, c'est dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
La production des hydrocarbures sur le littoral de l'océan Atlantique ne profite pas du tout aux communautés locales selon les conclusions du rapport de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi de réformes de l'action publique Corapensig publié le 19 juillet dernier. L'exploitation pétrolière est à l'origine de nombreux effets néfastes sur l'environnement et accentue la pauvreté des communautés locales de Mwanda dont la province du Congo central, renseigne le même document. Quel est donc l'impact de l'exploitation des hydrocarbures sur le vécu quotidien des communautés locales de Mwanda? Je le disais, on en parle avec notre invité Emmanuel Moussouyou, coordonnateur de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi de réformes et de l'action publique. Si vous êtes intéressé, vous voulez intervenir, faites un message vocal au 099-706-9941. N'appelez pas, faites-nous seulement un message vocal. Et puis, on va passer votre message sur nos antennes. Voilà, rebonjour à M. Emmanuel Moussouyou.
Merci beaucoup, M. Marcel.
Bon, vous êtes coordonnateur de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes de l'action publique. Et selon un rapport, publié, à Kinshasa le 19 juillet dernier, votre organisation parle de la production des hydrocarbures qui ne profite pas aux communautés locales, en tout cas de Mwanda. C'est vraiment les conclusions de ce rapport. Dites-nous d'abord comment se passe l'exploitation des hydrocarbures, dans cette partie du Congo central, sur le littoral de l'océan Atlantique, et quel a été le constat qui a été fait?
Merci beaucoup, Monsieur Marcel. Je salue en même temps les auditeurs qui nous suivent de partout. Et donc, déjà, vous avez parlé de mon organisation. Peut-être placer juste un petit mot pour, n'est-ce pas, bien éclairer. C'est une coalition. CORAP, c'est une coalition des ONG. Aujourd'hui, elle regroupe plus de 55 organisations réparties à travers le pays. Et donc, ces organisations travaillent dans le suivi des réformes. Donc, il y a plusieurs réformes, il y a plusieurs actions publiques qui sont, n'est-ce pas, développées par l'autorité. Et la CORAP a pour rôle, justement, de représenter la société civile et les communautés locales dans ces réformes pour se rassurer qu'elles répondent aux besoins, n'est-ce pas, aux vrais besoins des communautés à la base. Et donc, nous avons beaucoup travaillé dans le secteur de l'énergie, par exemple, la loi que le secteur a aujourd'hui depuis 2014, il y a des empreintes de la CORAP parce qu'elle a contribué à celle-là, les mesures d'application. Et actuellement, nous avons, n'est-ce pas, boosté pour influencer la politique nationale de l'énergie. C'est donc à travers cette politique que nous avons vraiment commencé des actions concrètes sur, en ce qui concerne également les hydrocarbures, parce que nous pensons que aujourd'hui, avec tout ce qu'on dit de la RDC comme pays solution, c'est donc une grande opportunité pour la RDC de se démarquer en ce qui concerne les énergies renouvelables. tenant compte de tout le potentiel que nous avons. Et donc, parlant des énergies renouvelables, c'est aussi question de voir comment est-ce qu'on réduit, n'est-ce pas, dans le mix énergétique, la participation des énergies fossiles au maximum pour que on donne place aux énergies renouvelables qui est aujourd'hui au centre, n'est-ce pas, des discussions à travers le monde. Déjà, comme vous êtes informé, dans plusieurs pays d'ici 2030, par exemple, on ne va plus utiliser de véhicules avec le carburant. Ça sera plutôt des véhicules électriques. Et comment est-ce que la RDC, qui est au centre des enjeux, se positionne comme leader des énergies renouvelables? Et donc, c'est ça notre souci. Alors, c'est ça qui nous a conduit également à voir, on dit qu'il faut se concentrer sur les énergies renouvelables, mais quels sont les impacts, n'est-ce pas, des énergies fossiles? Quels sont les impacts des hydrocarbures? Et donc, c'est comme ça que, déjà avec surtout l'ambition de la RDC de produire du pétrole en masse ou carrément de transformer ce potentiel en hydrocarbure à travers le 27 bloc pétrolier. Vous vous souviendrez que depuis juillet de l'année passée, le gouvernement avait lancé les appels d'offres pour l'exploitation de ces blocs-là. Et donc, c'est dans ce contexte où on veut comprendre. La RDC, à Mwanda, on va en parler tout à l'heure, on produit des hydrocarbures, mais la RDC n'est pas considérée comme pays producteur des hydrocarbures. Pourquoi? Parce que le nombre de barils qu'on produit aujourd'hui, qui est plus ou moins 25 000 barils jour par Perencorep, ne correspond pas, n'est-ce pas, au seuil pour que la RDC soit considérée comme pays producteur.
Et parce le seuil, il faut arriver à combien?
Plus ou moins 250 000 barils jour. Et donc, nous sommes à 25 000. Vous allez vous rendre compte que la production est encore faible.
Oui.
Et au-delà de ça, on veut justement se lancer à exploiter le 27 blocs pétroliers et les 3 blocs gaziers. Ça veut dire qu'on a une ambition, peut-être qui est aussi d'une manière ou d'une autre contradictoire à cette vision, n'est-ce pas, de pays solution, parce qu'on est pays solution, parce qu'on lutte contre le changement climatique, parce qu'on lutte contre le réchauffement climatique en proposant des solutions, en proposant les eaux, la forêt et autres. Mais en même temps, on veut aussi devenir ce pays, ce grand pays producteur. Donc pour dire que dans ce contexte-là, il était important pour nous de voir quels sont ces impacts pour informer la population. C'est comme ça que nous avons publié ce rapport, que nous avons appelé « Guide pour la communauté sur les impacts des hydrocarbures » qui fait allusion à plusieurs contextes, plusieurs pays et aux informations de base. À Mwanda, qu'est-ce qui se passe? C'est depuis pratiquement 1959 qu'on parle de l'exploration dans cette ville-là, 59-69, on explore. Et c'est depuis plusieurs années maintenant que la production s'est faite. Et Perenco, notamment, qui est aujourd'hui l'acteur principal, a commencé à exploiter ces hydrocarbures ou ce pétrole depuis 2002 pratiquement. Est-ce que on peut comprendre que depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, la production n'augmente pas? On n'est que à 25 000 barils jour. Alors que Perenco exploite plus de 11 puits dans la province. Et on peut d'ailleurs se rendre compte que ça n'a pas commencé à 11. C'est au fur et à mesure que Perenco est en train, n'est-ce pas, de récupérer plusieurs espaces à Mwanda pour produire des hydrocarbures. Donc, depuis toutes ces années, la RDC ne produit que 25 000 barils jour.
Et dans le cadre de votre organisation, vous avez tenté d'y voir un peu plus clair pour savoir s'il y a eu une augmentation de la production, du nombre de barils depuis 2002 jusqu'à ce jour, ou bien c'est toujours...
Non, mais c'est trop faible. C'est trop faible. C'est même visible parce que, de toute façon, si la Perenco ne trouvait pas gain de cause, elle ne pouvait pas rester et demeurer. D'ailleurs, elle continue à présenter des intentions, à continuer à exploiter ces hydrocarbures-là. Déjà, dans le cadre de blocs pétroliers, ils sont en train de négocier quelques blocs parce que au niveau du Congo central, il y a aussi plus ou moins 3 blocs qui est là-bas et Perenco est en train de négocier pour prendre quelques blocs et les exploiter. Donc, pour dire qu'il y a un problème. Au-delà de la CORAP, il y a plusieurs organisations de la société civile et même nationales et internationaux qui ont fait justement plusieurs démarches pour essayer de comprendre comment ça se passe, mais dans la plupart de cas, ils sont étouffés. Dans la plupart de cas, c'est peut-être aussi de problèmes sécuritaires, etc., qui font que des fois les actions ne vont pas très loin. Mais aujourd'hui, on peut voir la ville de Mwanda. Elle bénéficie de quoi par rapport à la production? Dans notre rapport, nous avons essayé de planter le décor sur la ville. Vous pouvez vous rendre compte que la ville de Mwanda, dans sa globalité et les villages, n'a peut-être qu'une petite route avec le goudron, peut-être plus ou moins, si je ne me trompe pas, c'est même pas 5 kilomètres.
Donc Perenco ne contribue pas au développement des infrastructures sociales de base, non?
Non, on ne sent pas ça, on ne sent pas cela parce que la ville n'a pas de route. La ville n'a pas, n'est-ce pas, des infrastructures adéquates parce que carrément, quand on nous parle de l'exploitation des hydrocarbures, prenons le cas de blocs pétroliers qui ont été lancés. C'est quoi la promesse? On nous dit que ça viendra apporter développement, ça viendra pour créer de l'emploi, ça viendra soutenir le développement du pays. C'est ça l'objectif. Mais depuis des années, quand on produit du pétrole, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure de qualité. Qu'est-ce que vous voulez? Donc c'est ça, la population aujourd'hui à Moanda, près de plus de 90% de population n'a pas d'emploi à Moanda.
Il semblerait que c'est parce que le raffinage ne se fait pas sur place et puis ça pose problème.
Ben écoutez, ça peut être une raison, mais nous on veut voir, n'est-ce pas, les fruits de cette exploitation. Le raffinage, il n'est pas là, mais qui profite de ce qu'on fait aujourd'hui?
Alors s'il faut d'abord, parce que si on se réfère à ce même document qui a été publié par votre organisation, la CORAP, on dit que cette exploitation pétrolière est à l'origine de nombreux effets néfastes sur l'environnement et accentue la pauvreté des communautés locales de Moanda. Alors parlons d'abord de ces effets néfastes sur l'environnement liés à l'exploitation pétrolière à Moanda.
Nous avons été sur place. Par exemple à Kimwabi et dans d'autres villages, nous avons constaté à l'œil nu déjà quelques effets. La ville de Moanda, à l'époque, c'était une ville où on pouvait trouver quelques espèces d'arbres spécifiques. Il y a un type d'arbre de manguier qu'on peut trouver là-bas. Il y avait, n'est-ce pas, des cocotiers, etc. Mais aujourd'hui, on peut voir certains cocotiers qui brûlent, qui n'arrivent pas à évoluer. Les arbres, le manguier par exemple, à Kimwabi notamment, c'est difficile, ce n'est plus vraiment fréquent. Il n'y a pas d'arbres à Moanda. Ce sont des impacts de l'exploitation. L'agriculture ne marche presque plus. Aujourd'hui, ce sont des problèmes. Et nos amis de RENAD, une organisation basée à Moanda, avaient publié récemment un rapport où ils ont pris des échantillons pour analyser, n'est-ce pas, les impacts sur la santé notamment. On constate qu'il y a beaucoup de problèmes de maladies respiratoires, il y a beaucoup de problèmes de maladies de peau qui sont observés à Moanda. Peut-être qu'il faut qu'on aille encore plus loin pour constater, par exemple, le niveau de l'espérance de vie des populations. Parce que dans notre rapport, on parle du Nigeria, par exemple, ou dans l'état de Delta, du Delta, où on peut voir que l'espérance de vie dans cette région est de 16 ans de moins que dans d'autres régions. Aujourd'hui, l'état de Delta, l'espérance de vie, c'est 41 ans, alors que dans d'autres régions, c'est 16 ans de plus. Donc, à Moanda, si on fait encore, on pousse encore un peu plus loin, on peut constater aussi ce problème-là. Pourquoi? Parce que l'exploitation s'est faite dans les villages où se trouvent les communautés. Vous allez trouver des chevals, n'est-ce pas, d'extraction de ces hydrocarbures dans des villages. Vous allez trouver au pire même aussi, n'est-ce pas, le torchage qui s'est fait dans des villages à côté des communautés, alors que la loi interdit ces pratiques-là. Mais ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui, et ça, ce sont des causes qui peuvent prouver, n'est-ce pas, l'existence de ces impacts. Donc c'est visible à l'œil.
C'est visible à l'œil. Alors, pour parler un peu du développement même de cette cité de Moanda, est-ce que vous avez essayé de vous renseigner, hein, c'est au niveau de votre organisation, pour savoir si Perenco verse de l'argent à l'État congolais pour le développement des infrastructures sur place à Moanda, ou alors c'est plutôt à Perenco que revient la charge directement de collaborer avec la société civile sur place, ou bien d'autres organisations sur place pour essayer de développer la cité de Moanda.
Ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas à Perenco de développer la cité de Moanda. Ouais. Parce que Perenco, c'est une entreprise.
Exactement.
C'est à l'État congolais, justement, de prendre ses responsabilités pour développer la cité de Moanda. Mais nous, quand on parle de Perenco, on essaie aussi de voir, n'est-ce pas, de comparer le niveau du bénéfice qu'a Perenco de façon directe sur ces ressources-là par rapport à ce qu'a le gouvernement congolais et ce qu'a la population congolaise. Il est vrai que des informations sont publiées, par exemple, dans le cadre de l'ITIE, l'Initiative pour la Transparence dans le secteur extractif. Chaque année, ils publient des informations en rapport avec la production, n'est-ce pas, de les chiffres que font Perenco, et ça c'est dans le budget de l'État. Et donc, quand nous parlons de ce problème, nous voyons plusieurs dimensions.
Oui.
Nous voyons la dimension de la gouvernance, parce que c'est le gouvernement congolais qui doit apporter ce développement-là que nous souhaitons. Mais est-ce que l'argent que Perenco donne au gouvernement sert à quelque chose? Ça, c'est une dimension. Et la deuxième dimension, est-ce que Perenco donne suffisamment de l'argent au gouvernement congolais? C'est là qu'il y a un point de ce point-là d'interrogation. Et je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, c'est très difficile, par exemple, que le gouvernement ou les inspecteurs de certains services au niveau du gouvernement de surprendre Perenco pour faire peut-être certains audits ou trouver certaines informations. Pourquoi? Parce que Perenco, son bureau est sur l'océan. Et c'est seul Perenco qui a le moyen pour faire accéder ces inspecteurs-là. Vous comprenez que les données peuvent être chiffrées et plutôt truquées ou je ne sais pas. Ça, on peut toujours se retrouver face à de telles situations. Et donc, on n'a pas le plein contrôle sur l'activité de Perenco. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que même le nombre de barils ne varie pas. Et même des chiffres qu'on donne au gouvernement congolais ne servent pas à grande chose. Donc ça, c'est un problème.
Bah, Emmanuel Moussou, on revient à vous. Le temps pour nous de nous tourner vers l'Estanda. Il y a déjà Jérémy Mwamba qui a réagi depuis Lubumbashi. Si vous êtes intéressé à ce numéro du magazine Okapi Service, si vous voulez intervenir, vous pouvez le faire au 099-706-99-41. Vous nous faites un message vocal. On est en train de parler des effets de l'exploitation des hydrocarbures sur le vécu quotidien des communautés locales de Mwanda.
Le 42-502, c'est Radio Okapi dans votre téléphone, par un simple appel au 42-502. Une fois sur le 42-502, vous avez le choix entre différents programmes. En tapant le 311 pour le journal, la revue de presse au 312, le flash info au 313, le 321 pour le sport, la chronique santé au 322 et Banane Doulée au 323. Le 42-502, c'est Radio Okapi dans votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42-502, uniquement pour les abonnés Vodacom.
On va écouter Jérémy Mwamba qui a réagi depuis Lubumbashi. Bonjour Jérémy Mwamba.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour également à l'invité. Nous savons, comme l'a dit les rapports au sujet de l'impact n'est-ce pas, de l'exploitation des hydrocarbures, n'est-ce pas, qui ne profite pas, n'est-ce pas, aux communautés locales de Mwanda. Alors, il faut que réellement que les choses se coordonnent de manière efficiente, ça veut dire la population doit entrer dans les profits de tout ce qui est exploité. Ce serait une bonne manière d'encourager, n'est-ce pas, cette population-là. Alors, vous savez que il en est de même pour certaines entreprises qui exploitent. Et lorsque ces entreprises œuvrent, ça veut dire il doit y avoir ce qu'on appelle des redevances. Ça veut dire ça doit profiter au lieu, parce que vous savez qu'il y a, n'est-ce pas, des effets néfastes dus, n'est-ce pas, à la production. Il faut réellement que la population qui reste ou qui réside dans les périmètres ou tout près, n'est-ce pas, du lieu où on est en train d'exploiter, il faut que réellement cela profite aussi tant soit peu à la population. Mais là où lorsqu'on veut s'en passer de ce privilège là, c'est comme si on est en train en même temps d'asphyxier alors cette population qui est doublement frappée, d'abord un par n'est-ce pas les effets néfastes, n'est-ce pas, dus à l'environnement et aussi attirée aussi par la pauvreté. Il faut que réellement que ceux qui sont placés pour pouvoir suivre ce dossier doivent normalement ouvrir l'œil et le bon pour que, n'est-ce pas, cette population puisse participer ou soit utilisée aussi ou soit associée, n'est-ce pas, dans la production, parce que il y a beaucoup de choses qui tournent en sa défaveur. Il faut que cette population puisse aussi participer activement dans l'exploitation. Parfois, on peut créer des écoles, ce sont des canaux, c'est-à-dire des registres d'ordre social qui doivent profiter, n'est-ce pas, à cette population. On doit, par exemple, mettre sur pied des hôpitaux qui doit en même temps profiter à cette population aux besoins, engager certains, parce que ça va faire en sorte que cette population soit soulagée, n'est-ce pas, dans ce registre-là. Ce serait une bonne chose. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est Jérémy Mwamba, à partir de Lubumbashi.
Merci Jérémy Mwamba d'avoir réagi depuis le Lubumbashi. Monsieur Manuel, monsieur, vous avez la parole. Comment analysez-vous le propos de Jérémy?
Non, mais monsieur Jérémy, je pense qu'il a raison. Et carrément, les redevances, justement, servent au développement local. Servent, n'est-ce pas, à l'amélioration de conditions de vie de ces populations qui ont accepté de vivre aux côtés de ces ressources, n'est-ce pas, qui sont exploitées. Et aujourd'hui, par exemple, dans le secteur minier, on ne peut pas dire que c'est parfait, mais on peut déjà voir comment est-ce que certains ETD, n'est-ce pas, bénéficient de la redevance, peut-être de façon directe, et ça leur permet justement de faire quelques projets ou de mettre en place quelques projets de développement, bien que le côté gouvernance demeure un grand problème. Et donc ça rejoint ce que j'étais en train de dire ici. À Moanda, combien d'écoles de qualité on peut citer aujourd'hui? Combien d'hôpitaux, n'est-ce pas, de qualité on peut identifier à Moanda? Quel est l'état de route à Moanda? Quel est l'état de l'électricité, l'accès à l'électricité? Il est vrai que à travers le gaz torché, n'est-ce pas, qui sont récupérés par Perenco, ils arrivent aujourd'hui à produire un peu d'électricité qui, n'est-ce pas, distribue à certaines communautés. Mais après, c'est pas suffisant. Déjà, c'est gratuit, c'est vrai, mais cette communauté, de fois, n'a même pas de moyens pour développer des activités, parce que l'électricité, c'est aussi le développement, n'est-ce pas? Ça permet d'avoir certaines activités économiques, mais on peut voir dans certaines cités de Moanda où les populations ont de l'électricité et ne savent pas quoi en faire. Et donc, c'est l'ensemble de toutes ces conditions-là qu'on peut parler, en voyant cela qu'on peut parler du développement. Donc, monsieur Jérémy a totalement raison, et ça rejoint notre inquiétude, parce que aujourd'hui, on parle de Moanda, et déjà dans la philosophie de notre rapport, c'est d'enseigner pour dire on a Moanda aujourd'hui où on exploite par Perenco. Voilà ce que ça représente, voilà ce que ça nous donne comme avantage. Et demain, on veut produire à grande échelle. On veut exploiter le 27 bloc pétrolier. Est-ce qu'on prend les renseignements de Moanda, les leçons à Moanda nous enseignent? Est-ce que, parce qu'on nous parle de plus de 20...
Donc c'est un peu une espèce de sonnette d'alarme que vous êtes en train de tirer pour faire, c'est-à-dire pour aider les gouvernants à comprendre que c'est, si vous avez lancé cette opération d'exploration, d'exploitation des blocs pétroliers gaziers, c'est bien bon, mais déjà à partir de ce qui se passe déjà au niveau du littoral à Moanda, il faut déjà se dire est-ce que les choses se passent bien, et s'il y a des erreurs à corriger, c'est maintenant qu'il faut déjà y réfléchir.
Effectivement, malheureusement, on se rend compte que souvent, ces genres de programmes, quand ça arrive, et peut-être on peut aussi voir le contexte qui est peut-être électoral, etc. C'est dans la précipitation, malheureusement. On parle de la précipitation parce qu'il n'y a pas d'études, n'est-ce pas? On parle de la précipitation justement parce qu'il n'y a pas des éléments qui démontrent que la réflexion a été vraiment faite de façon sérieuse. Dans la mesure où on nous parle, par exemple, de 200, du bénéfice pour la RDC de plus de 200 000 milliards de dollars. Ah, ça, c'est théorique. Est-ce qu'on peut se poser la question au-delà de Moanda, ce qui se passe au Nigeria? Le Nigeria aujourd'hui est le plus grand pays producteur de hydrocarbures, mais c'est combien de populations qui ont des emplois au Nigeria? Est-ce qu'on peut dire que le Nigeria c'est un pays développé? Alors que, peut-être dans le même contexte, avant l'exploitation, on promettait le développement pour le Nigeria, alors qu'aujourd'hui, déjà il y a quelques années, le Nigeria avait atteint le pic de production. Et la flèche est en train de baisser, de descendre. C'est-à-dire que dans les 10, 20, 15 prochaines années, le Nigeria peut-être n'aura plus le potentiel qu'il avait il y a plusieurs années maintenant. Il sera en deçà, très en deçà. Est-ce que le Nigeria a atteint le niveau du développement? On nous parle de l'Angola. Effectivement, le pétrole a beaucoup aidé l'Angola. Mais on peut aussi voir le niveau de la corruption qu'il y a eu en Angola. Combien de personnes bénéficient de ces pétroles? Si ce n'est que ce groupe-là d'autorités autour de ces négociations, autour de ces contrats. Vous voyez. Donc, chez nous, on ne veut pas que la population puisse être trompé encore une fois de plus, mais on veut que les choses se passent de façon très responsable pour que notre pays puisse effectivement bénéficier de ces ressources.
Alors, puisque vous êtes de la société civile, parlons un peu de la société civile locale et sur place dans les territoires de Moanda. Est-ce que vous travaillez avec la société civile locale pour savoir un peu quelles sont leurs revendications ou leurs aspirations par rapport à l'exploitation pétrolière à Moanda?
Effectivement, à Moanda, je peux affirmer ici que la société civile est plus ou moins divisée parce que finalement il y a moins d'espace déjà de parole, surtout pour ceux qui veulent dénoncer certaines pratiques autour, n'est-ce pas, de l'entreprise qui exploite, et donc de moins en moins les gens ont de l'espace pour en parler. Et donc par le passé on a vu des organisations comme ADEV qui est basée à Boma et plusieurs autres qui travaillait sur la province, qui travaillait plutôt sur le territoire de Moanda autour de la question, être interdit, n'est-ce pas, être cité comme des personnes non ingrates dans la ville de Moanda à cause du fait qu'ils étaient en train de dénoncer ce problème-là. Mais aujourd'hui, il y a quand même des acteurs courageux avec lesquels nous travaillons. J'ai cité ici l'ONG RENAD qui récemment d'ailleurs a publié un rapport très intéressant que nous recommandons à la population de lire, qui essaye de mettre en avant-plan certaines analyses scientifiques qui ont démontré qu'effectivement il y a des impacts, notamment sur la santé, sur l'environnement et bien d'autres problèmes. Et donc nous travaillons avec des acteurs qui aujourd'hui, surtout ceux-là qui réfléchissent, sont très indignés de voir que voilà, la situation n'est pas bonne dans la province. On était en train de... Vous aviez posé tout à l'heure une question des impacts, mais aussi du problème de pauvreté dans la province ou dans la ville de Moanda. Pourquoi on parle de la pauvreté? Déjà, plus de 90% de population n'a pas accès à l'emploi. C'est un problème. Comme alternative, la population de Moanda, elle est très forte dans l'agriculture, n'est-ce pas? Elle est très forte surtout à la pêche, en faisant la pêche. Kinshasa, à un certain moment, était ravitaillé par des poissons qui venaient de Moanda. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que les gens vivent encore cette situation-là. Pourquoi? Parce que beaucoup des rivières ont été polluées et il y a eu beaucoup de problèmes. Et donc, c'est-à-dire si même les moyens de subsistance des communautés...
Une pollution causée par l'exploitation
bien évidemment. Oui. Bien évidemment. Donc déjà, cette population qui vivait de la pêche, si elle perd ses moyens de pratiquer la pêche, c'est-à-dire que vous l'appauvrissez encore davantage. Les femmes qui faisaient de l'agriculture, les maraîchères, etc., ils ont vu leur terre être prise par la Perenco parce que, soi-disant, ça se retrouve dans des concessions de la Perenco ou nouvellement renégociées avec le gouvernement. Donc elles perdent les terres, elles ne savent plus faire leurs activités, elles tombent dans la pauvreté. Donc c'est un peu ça la problématique, et il y a des acteurs courageux qui arrive justement à présenter la situation et à dénoncer ce problème-là. Et nous les encourageons parce que c'est pour le bien de notre population, c'est pour le bien de notre pays. Et donc, il faudrait que quand on a des ressources, ces ressources puissent aussi être bénéfiques pour nous tous.
Voilà, 099-706-9941, c'est le numéro pour participer à ce magazine Okapi Service. On est en train de parler des effets de l'exploitation des hydrocarbures sur le vécu quotidien des communautés locales de Moanda. Je rappelle que depuis quelques semaines, nous avons des problèmes avec nos lignes habituelles. Donc, n'appelez pas à ces lignes-là. Plutôt, faites-nous un message vocal au 099-706-9941.
Retrouvez la revue de presse de Radio Okapi sur votre téléphone en composant le 42-502, le 42-502, puis le 312 pour ne rien rater de l'actualité du pays. La revue de presse de Radio Okapi avec vous partout et comme vous voulez, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42-502, uniquement réservé aux abonnés Vodacom.
Alors, les constats étaient faits, les documents étaient publiés par rapport à tous ces impacts de l'exploitation pétrolière sur le vécu quotidien de communautés locales de Moanda. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour y faire face ou bien pour faire en sorte que quand même que les choses puissent changer, puissent bouger et que qu'on réduise tant soit peu cet impact de l'exploitation et pétrolière sur le vécu quotidien des communautés locales du monde, mais aussi et voir dans quelle mesure lutter contre la pauvreté dans cette partie du pays.
Oui, mais je pense que c'est une très bonne question. Qu'est-ce que nous devons faire? Oui. Elle est assez complexe. C'est comme ça que nous, dans nos réflexions, nous disons, Moanda, c'est déjà un cas qui vit, n'est-ce pas, l'exploitation aujourd'hui. Et c'est peut-être irréaliste pour nous de demander que le gouvernement arrête l'exploitation tout d'un coup, parce que carrément, même s'il y a plus de 90% de population qui n'a pas accès à l'emploi, il y a quand même certaines personnes de Moanda qui, d'une manière ou d'une autre, bénéficient, n'est-ce pas, du paix d'emploi qui existe peut-être. Et donc, pour nous, pour le cas de Moanda, il y a une façon de faire, c'est que nous demandons au gouvernement. Je pense que dans la politique nationale de l'énergie, il y a un objectif qui a été modifié en intégrant la notion du développement durable, de l'exploitation durable de ces ressources-là. Et quand nous parlons de l'exploitation durable, justement, c'est aussi une façon de dire on continue à faire ce qu'on fait, mais on le fait de façon responsable, tenant compte des impacts qui sont, n'est-ce pas, faits aujourd'hui sur les générations actuelles et futures. Mais aussi, l'idéal, c'est d'aller vers des solutions vertes, d'aller vers des solutions durables. Ça veut dire, aujourd'hui, penser aux alternatives de cette exploitation-là des hydrocarbures. Moanda, peut-être, c'est un cas d'école, mais ailleurs, déjà, il faut penser à ces alternatives-là. C'est comme ça que dans notre rapport, vous allez vous rendre compte qu'on parle de quelques alternatives durables que nous avons soutenues. Déjà, dès l'introduction de mes propos ici, je disais que il y a cette opportunité des énergies renouvelables qui peuvent être capitalisées partout en RDC, y compris à Moanda. Comment est-ce qu'on peut davantage commencer à penser vers? Comment est-ce qu'on peut penser au développement des énergies solaires, par exemple? Comment est-ce qu'on peut penser au développement des biogaz? Comment est-ce qu'on peut penser à toutes ces alternatives contre cette production qui apporte malheur à la population? Ça, c'est une chose. Au-delà de ça, nous pensons aussi que le tourisme, c'est un aspect assez important. Alors que le tourisme est très menacé par l'exploitation. Parce que quand on veut exploiter les hydrocarbures, on a besoin des espaces. Les espaces qu'on pouvait valoriser autrefois pour nous ramener beaucoup d'argent sont aussi menacés par cette exploitation-là. Pour nous, ça fait partie justement des alternatives assez crédibles qui vont aider énormément dans la création d'emplois, dans la création des richesses. Et dans notre rapport, on parle par exemple de l'exemple de Virunga. Vous voyez la province du Nord Kivu. Malgré que on est en train de vivre une insécurité injuste, n'est-ce pas, imposée par le pays, le Rwanda notamment, il y a quelques années, on a vu que le parc de Virunga rapportait près de 10 millions de dollars l'an en termes de tourisme dans les caisses de l'État. Juste le parc de Virunga. Vous pouvez vous rendre compte. Alors qu'au Congo central, dans le Nord Kivu, et plutôt dans d'autres provinces, Équateur, etc., on a d'importants espaces que nous pourrons capitaliser pour le tourisme, et du coup, ça entre dans la logique de développement durable. Au-delà de ça, c'est l'agriculture. Vous vous souviendrez que, il y a plusieurs années, nous étions premiers producteurs de plusieurs produits, le café, je sais pas, le cacao, etc. Beaucoup de produits.
Même de l'huile de palme.
L'huile de palme, alors que, n'est-ce pas, la province du Congo central, c'est une des provinces qui a des ressources importantes, qui a un potentiel énorme en agriculture. Même sur la route allant vers Moanda, il y a plusieurs plantations de palmiers, de jeunes plantes, etc. Et donc, ce sont là des alternatives aujourd'hui, si seulement on peut, n'est-ce pas, se rappeler de ce qu'on a été l'autre fois. Je vous donne un exemple. La semaine passée, on a appris que le Kenya a gagné plus de 6 millions de dollars en 3 mois, juste parce qu'il exportait les avocats vers la Chine. En 3 mois, à travers l'exportation des avocats, le gouvernement a gagné 6 millions de dollars en 3 mois. Vous pouvez vous rendre compte du potentiel que nous avons, alors que l'agriculture est en conflit avec l'exploitation des hydrocarbures. C'est-à-dire, si on veut vraiment préserver notre environnement. On veut contribuer à ces efforts du réchauffement climatique. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens commencent à se rendre compte qu'effectivement, le réchauffement climatique est une réalité. Si on suit les nouvelles en Grèce et un peu partout aujourd'hui en Europe, il y a la canicule, il y a des grands effets du changement climatique qui sont vécus là-bas. Hier, par exemple, je suivais l'information où ils étaient en train d'évacuer plus de 30 000 personnes dans une ville parce que il y a eu des faits de brousse causés notamment par l'augmentation de la température, plus de 40 degrés de température. Et ce sont des effets qui, si seulement on continue à exploiter les hydrocarbures, ça va nous rattraper nous aussi. À Kinshasa, est-ce que déjà c'est visible pendant la saison, même là on est pendant la saison sèche, mais on a des soleils qui des fois apportent la chaleur qu'on ne comprend pas. Pendant la saison de pluie, c'est encore grave. Donc ce sont là, selon nous, des alternatives sur lesquelles le gouvernement devra travailler dessus. On ne demande pas, Mwanda, c'est vrai qu'on exploite, on ne peut pas arrêter tout de suite, mais il faut qu'on prenne des mesures qui nous permettent vraiment de voir que effectivement ce qui s'est fait d'abord aujourd'hui est bénéfique pour nous, ce qui se fera demain le sera également, mais on le fait justement dans la préservation de notre environnement, on le fait dans la gestion durable des ressources pour que les générations qui viendront demain puissent aussi se retrouver. Sinon on laisse une terre sans ressources, mais ça sera la fin, ça sera que vivront nos enfants.
Alors, votre coalition, vous avez parlé des organisations de la société civile qui rassemblent un certain nombre d'organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique. Est-ce que vous avez comme l'impression que, des fois, peut-être vous menez des plaidoyers, mais on vous écoute pas?
L'impression existe. En tout cas, on est resté pendant très longtemps très incompris par certains acteurs politiques. Je me rappelle à l'époque quand on poussait pour l'adoption de la loi, des mesures d'application, à l'époque quand on poussait contre le développement du projet Grand Inga, beaucoup d'acteurs étaient contre nous. Ils disaient mais vous êtes idéalistes, etc. Mais aujourd'hui nous sommes contents, nous sommes très contents parce que la plupart de ce que nous demandons, d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas direct, on voit que certaines mesures sont prises. Par exemple, nous avons été parmi les premiers qui poussaient pour que le gouvernement mette l'accent sur les secteurs décentralisés, du secteur énergétique décentralisé, la production de l'énergie à partir de la base, à travers des solutions renouvelables. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a pris, par exemple, le programme de 145 territoires. Le volet énergie vise le solaire. Ce sont des décisions qui nous plaisent. Et tout récemment, parce que nous, pendant plusieurs années, on a fait savoir que le projet Inga n'était pas une priorité pour le gouvernement, pour la RDC. Pourquoi pas une priorité pour la RDC? Parce que, déjà, ça demande beaucoup de ressources que nous n'avons pas. Plus de 20 milliards de dollars. Déjà, les Australiens parlaient de 26 milliards plus ou moins, que nous n'avons pas. Ils vont mobiliser. Ça va certainement créer des dettes de façon directe ou indirecte. Au-delà de ça, c'est beaucoup d'impact. Mais aussi, le Grand Inga ne va pas bénéficier à la population congolaise de façon directe en termes d'accès à l'électricité, parce qu'on vise, n'est-ce pas, alimenter des industries qui vont certainement transformer des ressources. Et pour le cas de Fortescue, les Australiens, et ils voulaient construire des industries à Mwanda pour transformer l'hydrogène et d'autres intrants. Et donc, par rapport à ça, la CORAP a toujours dit que Inga n'était pas une priorité. Par contre, toutes les ressources que nous avons peuvent être développées et ça donne de l'électricité à partir de la base et cela contribue à l'économie. Et tout récemment, quand le chef de l'État a reçu son homologue sud-africain, il a parlé de ça. Il a justifié le fait, il a justement abordé la question en démontrant que, voilà, le projet tel qu'il est développé aujourd'hui, il ne représente pas ce que veut le pays. Et donc, pour nous, nous sommes quand même contents, d'une manière ou d'une autre, de voir que, à un certain niveau, même en retard, les autorités arrivent à comprendre. Nous les demandons de considérer que ce que nous faisons comme travail, c'est un fruit de réflexion. C'est des experts, c'est des analyses qui sont faites. On les fait pas contre le pays, on les fait pour aider à ce que le pays prenne des bonnes décisions au moment voulu, de sorte que cela aide.
Parce qu'on demande à tout le monde de mettre la main à la pâte pour le développement du pays, et vous, vous le faites à votre manière, et souvent on tirera la sonnette d'alarme, et c'est très très important, c'est quand vous êtes en train de le faire maintenant. On a parlé du développement de la RDC avec tout ce qu'il y aura comme exploitation de ces blocs gaziers et pétroliers, mais vous, vous tirez la sonnette d'alarme pour dire que voilà, déjà Mwanda, il faut prendre cet exemple-là, Mwanda, il y a eu l'exploitation pétrolière là-bas, mais qu'est-ce que ça a apporté à la nation et aux communautés locales, de manière à ce que cette fois-ci on puisse avoir des garde-fous, ou s'il y avait peut-être de cahiers sur les charges sociales qui étaient mal confectionnées, c'est à ce moment qu'il faut le voir. S'il y avait par exemple des contreparties de l'argent qui a été versé au trésor public pour le développement de ces contrées qui n'a pas été fait, il faut cette fois-ci essayer de rectifier le tir. Voilà, si je comprends bien ce que vous êtes en train de faire, c'est bien cela, et vous demandez qu'à être écouté, c'est pour le bien-être de toute la nation congolaise. Voilà, on va écoutez un autre auditeur, Laurent Mignon, qui réagit depuis Kananga. Bonjour Laurent Mignon.
Bonjour la Radio Capi, c'est Laurent Mignon qui passe à Kananga, au Kassai Central. Merci pour la thématique d'aujourd'hui. Je pense que l'impact des hydrocarbures sur le vécu quotidien de la population du Mwanda, je pense que c'est la construction de certaines infrastructures scolaires et sanitaires, mais aussi l'accès à l'emploi, parce que on ne peut pas comprendre que une entreprise qui exploite le pétrole dans un coin pareil, et la population qui est voisine souffre accroupie dans la misère. Non. Je pense que c'est une question de gouvernance. Nos autorités congolaises doivent revoir soi. C'est comme un mouvement, oui, à l'amiba. La population qui est voisine là-bas, la majorité, ce sont des jeunes qui sont pauvres. Mais ils sont entourés par l'amiba. Donc, vraiment, c'est une question de responsabilité de nos autorités. Les autorités doivent changer le paradigme. Ils doivent revoir les choses. On ne gère pas les pays comme ça. Nous avons un pays très riche. Nous avons tout sauf rien. Mais la misère, le chômage battent toujours les records. Donc, nos autorités ont vraiment une tâche lourde pour accorder l'emploi à la jeunesse congolaise. J'ai des questions à poser à l'invité. Est-ce que l'invité peut nous dire, depuis qu'ils ont débuté leur démarche, ils sont déjà parvenus à quoi? Et les démarches qu'ils font, ils visent quoi? Parce que j'ai fait un constat, à des fois, la plupart des invités qui passent à la Radio Capi, ils parlent comme ça, ils sacrifient leurs énergies, les intervenants, nous les étudiants, nous intervenons. Mais après, on ne sait rien. C'est du statu quo. Donc, vraiment, merci beaucoup, bonne journée.
Merci Laurent Mignon depuis Kananga. Bonne journée à vous aussi. Emmanuel Moussou, vous avez la parole.
Merci beaucoup, cher Laurent. Salutations. Vous qui êtes là-bas à Kananga. Et donc, oui, d'abord, vous parlez de la responsabilité des autorités, effectivement. C'est vraiment la grande responsabilité des autorités. Malheureusement, c'est juste une frange des personnes qui sont autour des négociations des contrats qui bénéficient de ces contrats. Nous l'avons vu, déjà, vous avez parlé de la MIBA, mais de façon globale, le secteur minier, par exemple. Le chef de l'État l'a si bien dit récemment, même sa visite en Chine pour renégocier le contrat chinois. Mais c'est un contrat de 6 milliards de dollars. Et la Chine jusqu'ici a gagné déjà 2 milliards. Et la RDC n'a même pas atteint 1 milliard. Il est autour de quelques 900 millions de dollars, etc. en termes de bénéfices. Et quand on suit très bien, c'est juste quelques personnes qui sont en train de jouir de ces bénéfices-là et pas la population. Et donc, on a besoin de l'amélioration de la gouvernance. Et il n'y a pas que le contrat chinois. Vous vous souviendrez de tout le programme qui ont été mis en place, 100 jours, style gelou, etc., où d'énormes sommes d'argent ont été décaissées, mais il n'y a pas de résultats sur terrain. Et donc, nous sommes d'accord avec vous, cher Laurent, que c'est de la responsabilité des autorités. Et nous devons tous ensemble, vous comme nous, continuer à faire pression pour que les choses changent effectivement sur terrain. Qu'est-ce que nous visons dans notre action? Notre action, nous, on est, c'est comme on l'a dit dans notre rapport, si vous l'avez lu, ce rapport a été produit dans le cadre de notre rôle, n'est-ce pas, de suivi ou du contrôle de la, citoyen de l'action publique. Nous sommes des citoyens. Nous devons nous tenir pour contrôler l'action publique. Nous devons nous tenir pour contrôler les réformes qui sont mises en place. Et la CORAP joue ce rôle pour représenter plusieurs ONG, pour représenter les communautés locales, la population, de fois dans certaines réformes ou dans certaines actions publiques. Raison pour laquelle, de temps à autre, nous tenons à ce que, n'est-ce pas, de fois s'il faut dire non de façon directe à certains programmes, nous le faisons, pourvu que la voix des communautés, les vraies demandes des populations soient faites. Et par exemple, vous voulez savoir les résultats. Les résultats ne dépendent pas de nous. Les résultats, c'est les changements que nous voulons. Par exemple, dans ce cadre ici des hydrocarbures, quand on parle de Moanda, les résultats pour nous, c'est que Moanda, c'est que la production à Moanda puisse bénéficier à la population. Et ça ne dépend pas de nous. Nous, dans notre rôle, nous devons continuer à faire pression. Et vous aussi, vous devez toujours poser des questions aux autorités pour qu'ils soient redevables. Les députés que nous élisons, le président de la République que nous élisons, il nous arrive de passer du temps à les applaudir parce que ils ont peut-être dit juste un mot au Parlement ou je ne sais pas quoi, mais il n'y a pas de résultat et nous devons être conséquents et vraiment, et dans ce cadre ici par exemple, ce que nous disons, la population doit poser des questions réelles aux députés, aux présidents de la République, aux candidats qui viendront. Où est-ce que nous en sommes avec l'accès pour tous à l'énergie? Où est-ce que nous en sommes avec l'emploi? Vous promettez, mais quels sont les plans concrets que vous voulez vous nous amener sur la table pour que nous puissions croire et vous élire? Ça, ce sont des questions que nous devons, et bientôt nous allons lancer une campagne comme ça pour davantage sensibiliser de sorte que l'on soit...
Et lorsqu'on a fait des émissions par rapport aux 63 ans de l'indépendance de la RDC, les auditeurs n'ont pas arrêté de dire que ce sont les mêmes promesses qui reviennent. Et la situation est toujours là. Ce sont les mêmes promesses qui reviennent.
C'est comme ça que nous devons sanctionner. Nous devons être prêts à nous mobiliser. S'il faut être sûr dans la rue, dans les rues, s'il faut signer des pétitions pour chasser un ministre, un député qui n'a pas, n'est-ce pas, répondu à qui n'a pas réalisé ses promesses, nous devons le faire. Et donc, nous, notre rôle, c'est justement de faire pression. C'est justement de présenter les choses de façon réfléchie, pour que l'autorité prenne en compte. Et donc, les résultats finaux que tous nous attendons, c'est le vrai changement. Mais ce changement vient au moment où les gens ont conscience, de sorte à agir de façon conséquente. C'est comme ça que nous disons, les blocs pétroliers qu'on est en train de lancer en cascade, pour nous, on trouve que c'est une décision qui n'a pas été bien mûrie, et c'est précoce de lancer ces blocs. Donc, ça doit nous amener à des vraies études pour voir effectivement qu'est-ce que nous gagnons et dans les détails. Et non nous dire que nous allons gagner 200 000 milliards de façon théorique. Et ça c'est de la propagande. Et nous ne voulons pas de ça. Cher Laurent, voilà un peu ce que je peux te dire et à tous les auditeurs. C'est que nous devons ouvrir l'œil et les bons. Et nous devons être exigeants. Surtout que nous nous approchons au moment décisif pour choisir nos représentants. Il s'agira de quels représentants. Et c'est à vous, nous, population, d'être rigoureux par rapport à ça pour que nous puissions voir le vrai changement que nous souhaitons.
Emmanuel Moussouyou, coordonnateur de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique au RAP en sigle. Merci d'avoir été de notre pour parler de cette question sur les effets de l'exploitation des hydrocarbures sur les vécus quotidiens des communautés locales du Moanda. Mais aussi merci d'avoir abordé dans ce sujet tout ce qui est lié à la bonne gouvernance dans le secteur de l'exploitation pétrolière. Merci d'avoir été de notre. On espère vous retrouver prochainement.
C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Je remercie aussi les auditeurs pour l'intérêt qu'ils ont accordé à l'émission. Et j'espère que les citoyens seront vigilants cette fois-ci pour que l'on puisse, n'est-ce pas, pousser à ce que le développement arrive.
Merci.